par actualité.
Bonjour à toutes et à tous, comment allez-vous? Nous sommes aujourd'hui le 19 décembre 2016 et c'est Clotilde Seille qui vous présente C'est par actualité du jour avec les titres d'aujourd'hui. Le RAM intervient dans le dossier du virage à droite à Montréal et déjà plus d'un million pour la guignolée du docteur Julien. À Rimouski, une recette éprouvée pour réduire l'attente à l'urgence. CETAL ouvre une nouvelle usine adaptée à Victoriaville. Le protocole canadien pour traiter la maladie de Lyme, ou de Lyme si vous préférez, est inadéquat, soutient un réalisateur de la rive sud. Et puis Rio doit beaucoup d'argent au Comité international paralympique. Deux entrevues aujourd'hui, d'abord avec Marie-Ève Carpentier, responsable de la vie associative et des communications d'un regroupement des organismes communautaires québécois qui vise à lutter contre le décrochage, et puis également un entretien avec Maxime Gagnon, directeur général adjoint d'Altergo. Alors le RAM réitère son appui à l'interdiction du virage à droite au feu rouge à Montréal. Une question de sécurité pour les personnes aveugles et malvoyantes. Le regroupement des aveugles et amblyopes du Montréal métropolitain, le RAM, réitère son appui à l'interdiction du virage à droite au feu rouge sur l'île de Montréal afin d'assurer la sécurité des personnes aveugles et malvoyantes. Pour une personne handicapée visuelle, pouvoir identifier le déroulement des phases à une intersection contrôlée par des feux de circulation est primordial. Le virage à droite au feu rouge élimine la prévisibilité du cycle normal d'un feu de circulation. Il devient donc beaucoup plus difficile pour la personne d'analyser le cycle des feux de circulation et ainsi de déterminer le bon moment pour effectuer sa traversée. Autoriser le virage à droite au feu rouge sur l'île de Montréal, c'est porter atteinte à la sécurité des personnes handicapées visuelles, selon le RAM. La fondation du docteur Julien, en date du 17 décembre en soirée, la collecte de dons de cette 14e guignolée s'élève à plus de 1 million, exactement 1 103 000. Imaginez, en 2015, 857 000 avaient été, dollars bien sûr, avaient été amassés à pareille date. Toutefois, ce bilan partiel ne compte pas encore les résultats des collectes effectuées dans l'ensemble des centres certifiés et ne concerne que la levée de fonds pour les trois centres de la fondation. Ce premier décompte démontre clairement que l'appui sans précédent de la population à la pédiatrie sociale en communauté se renouvelle d'année en année, ce qui représente un encouragement certain pour tous ceux qui œuvrent au sein du réseau appuyé par la Fondation du docteur Julien. Les besoins de nos enfants sont sans cesse croissants et c'est la générosité du public qui nous permet de les outiller afin de leur assurer un avenir meilleur. Continuez de nous appuyer jusqu'au 15 janvier et aidez-nous à soutenir la mission que nous nous sommes donnée, soit celle de rendre accessibles nos soins de pédiatrie sociale à toujours plus d'enfants, a déclaré le docteur Gilles Julien, fondateur et président de la Fondation du docteur Julien. Musicien, artiste de rue, danseur, clown, mascotte, ancien joueur étoile de hockey de la LNH, comédien et personnalité connue, se sont mis de la partie pour faire de cette 14e guignolée une grande fête de quartier qui a su toucher le cœur de tous ceux qui ont assisté à la gamme d'activités offertes cette année. Alors, elle est responsable de la vie associative et des communications, un regroupement des organismes communautaires québécois de lutte au décrochage. Et il y a eu une consultation jeunesse, l'écho de la voix des jeunes, de la coalition Interjeunes. On va parler un peu du compte-rendu et de ce qui s'est passé pendant cette coalition et cette consultation jeunesse. Bonjour Marie-Ève Carpentier.
Bonjour.
Alors, qu'est-ce que la coalition Interjeunes, d'abord, s'il vous plaît?
Oui, en fait, la coalition Interjeunes, elle a été créée il y a quelques années afin de rassembler les regroupements d'organismes communautaires autonomes jeunesse qui travaillent avec les jeunes dans une perspective là, de transformation sociale et aussi afin d'améliorer les conditions de vie des jeunes. Donc, elle réunit plusieurs regroupements. Le regroupement des maisons de jeunes du Québec, le regroupement des auberges du cœur du Québec, le regroupement des organismes communautaires autonomes jeunesse, le regroupement des organismes l'Office québécois de l'autodécrochage et aussi le regroupement des organismes communautaires québécois pour le travail de rue. Donc, c'est une coalition qui, en tout et pour tout, là, représente 345 organismes communautaires autonomes qui sont fréquentés par environ 370 000 jeunes à travers le Québec. Puis, depuis l'an dernier, la coalition là, a décidé d'organiser des consultations jeunesse sur des sujets qui font l'objet de politiques, stratégies ou de projets de loi gouvernementaux.
Alors, quels étaient les principaux thèmes abordés lors de cette consultation, puisqu'il y a eu consultation?
Oui, donc, le thème principal, en fait, c'était vraiment la réussite éducative. Donc, c'est organisé en marge là, des coalitions gouvernementales. Ensuite de ça, on voulait vraiment que les thèmes plus spécifiques émanent des jeunes. Donc, on les a réunis, là, c'était à peu près une journée et demie, tout d'abord pour leur présenter un peu qu'est-ce qu'était une politique gouvernementale. Et ensuite, c'était beaucoup pour qu'ils nous parlent de leur réalité, de ce qu'ils vivaient à l'école. Puis à partir de là, à partir de ce qu'ils nous ont dit, bien, on a réuni peut-être quatre, cinq grands thèmes comme l'intimidation, la performance, donc la notation, le climat scolaire, donc qu'est-ce qui est plus environnement scolaire, aussi l'accessibilité des études, donc en termes de financement, puis l'enseignement aussi, donc comment t'es au niveau de la pédagogie, mais aussi au niveau des cours offerts, qu'est-ce qui s'offre à eux, qu'est-ce qu'ils aimeraient recevoir comme type d'enseignement, mais aussi comme contenu là.
Alors, est-ce qu'il y a des points fondamentaux essentiels qu'on peut retirer de cette consultation jeunesse?
Bien oui, je pense que les jeunes ont surtout exprimé le fait qu'ils voudraient que l'école s'adapte plus à eux, à leur réalité, à leurs besoins. Donc, que l'école ne soit pas uniquement basée sur la performance, donc sur les notes, mais aussi que ça soit un lieu où ils se sentent bien et où qu'on apprenne pas seulement des matières ou des éléments qui vont nous servir à avoir un emploi plus tard, mais aussi qui vont nous servir au niveau politique, au niveau social, pour être un meilleur citoyen et que l'école soit plus inclusive aussi.
Mais vous savez, j'ai lu tout le rapport là sur le entre autres, il y avait ces enfants qui disaient on aimerait bien que nos professeurs parfois sortent un peu de leurs livres scolaires, tu sais, pour aller au-delà justement, pour nous apprendre à vivre quoi.
Exactement, on a eu beaucoup ça ressorti beaucoup d'être plus terrain, là, nous apprendre la vraie vie, entre guillemets, donc des cours aussi plus pratiques et beaucoup sur la politique, sur la citoyenneté, parce qu'ils se sentent ils sentent qu'ils comprennent pas nécessairement, ils se sentent pas bien outillés, en fait, pour vivre en société, là, avec...
Oui, je comprends tout à fait. Marie-Ève Carpentier, on parle aussi dans ce rapport beaucoup d'intimidation. Et les jeunes, d'ailleurs, donnent quelques pistes, quelques solutions. Et moi, récemment, je sais que j'ai eu l'occasion de lire un papier sur l'intimidation qui est faite auprès des personnes handicapées.
Oui.
Et qui fait que malheureusement, il y a un fort pourcentage de jeunes handicapés qui décrochent à cause de ça.
Oui.
Est-ce qu'il en a été question également au cours de cette consultation?
Oui, bien sûr, c'est quelque chose qui a été nommé par différents jeunes, là, dont des jeunes en situation de handicap. Donc oui, qui subissaient de l'intimidation, non seulement je dirais des autres élèves, mais aussi de l'exclusion du cadre scolaire. Donc qui étaient souvent isolés, qui se sentaient souvent isolés, compartimentés, marginalisés à l'intérieur du cadre scolaire. Donc c'est ce qu'ils déploraient beaucoup. Qu'ils soient, c'est ça, exclus, mis à part, qu'on s'attarde beaucoup seulement à leurs difficultés.
Mais qu'est-ce qu'on pourrait faire? pour améliorer leur sort, Marie-Ève Carpentier? Est-ce qu'il y a des solutions qui ont été élaborées, mises sur la table?
Oui, si je peux, je vais vraiment partir de ce que les jeunes nous ont dit. Mm-hmm. Pour eux, en fait, ça serait vraiment de favoriser la prévention, la sensibilisation, puis une forme d'éducation populaire là auprès de l'ensemble des élèves, mais aussi du personnel scolaire. Donc, ils ont aussi nommé que le personnel scolaire se soit sensibilisé aux différentes réalités.
Mmh. Oui,
des jeunes,
oui, oui.
Et puis qu'on leur donne peut-être des formations aussi pour être mieux aptes à s'adapter là, aux différents besoins, aux différentes réalités,
mm-hmm.
puis que le personnel scolaire soit davantage à l'écoute, oui. respecte aussi davantage le rythme, les rythmes d'apprentissage de...
Oui.
de chacun, chacun.
Exactement. Écoutez, on pourrait en parler longtemps, mais bon, je pense aussi que les parents, la famille, hein, a son rôle à jouer aussi là-dedans. Hein?
Oui, bien, oui, effectivement, c'est sûr que lors de la consultation, ça a été un aspect qu'on a
abordé.
Ça a moins sorti là, des propos des jeunes. Mm. Mais ce qui ressortait beaucoup aussi, c'est que oui, effectivement, c'est certain que la famille a un rôle à jouer, a une influence sur les jeunes, là, sur
bien
leur
sûr.
Capacité à être bien aussi à l'école, tout ça. Mais ce que les jeunes nous disaient aussi, c'est que l'école devrait tenir compte aussi des différentes réalités familiales
oui.
qu'ils et elles vivent, qui ne sont pas toujours faciles.
Non, c'est sûr.
Donc, de tenir compte de ça. Et pour nous aussi, c'est super important que les conditions de vie des familles soient améliorées afin que les familles, l'ensemble des familles là, puissent aider le mieux possible leurs enfants dans leur cheminement scolaire.
Merci beaucoup, Marie-Ève Carpentier. Je vous rappelle que vous êtes responsable de la vie associative et des communications, donc ce regroupement d'organismes communautaires québécois qui vise à lutter contre le décrochage. Alors,
exactement.
Merci beaucoup d'avoir fait le point avec nous sur cette consultation. Il y aurait bien sûr eu beaucoup, beaucoup de choses à dire
oui,
encore, mais au moins on en sait déjà un petit peu plus et on
oui.
s'aperçoit que les jeunes sont beaucoup plus conscients de choses que ce qu'on veut bien le dire. Hein?
Effectivement, oui.
Allez, passez une belle journée, Marie-Ève.
Merci beaucoup.
Au plaisir.
Au plaisir, au revoir.
Par actualité régionale, hôpital régional de Rimouski, qu'on nous présente d'ailleurs en photo dans ce texte de David Gentilet qui l'a écrit pour le site de Radio-Canada. Une photo de l'hôpital avec une salle d'attente où l'on remarque quelques patients et des civières vides dans un corridor attenant. L'urgence de l'hôpital de Rimouski semble plutôt calme aux yeux de l'observateur habitué au chahut des urgences de la région de Montréal. Alors comment cet hôpital a-t-il réussi à réduire les temps d'attente? C'est le sujet de ce papier. Notre durée moyenne de séjour sur civière est de 7,2 heures contre la moyenne québécoise de 15,4, affirme le cardiologue Jean-Christophe Carvalho, le directeur des services professionnels au Centre intégré de santé et de services sociaux, le CIS, du Bas-Saint-Laurent. Une performance encore plus enviable par rapport à Montréal, où la durée moyenne est de 17 heures, ou encore à la Montérégie, où un malade peut attendre plus de 20 heures sur une civière. Ici, les solutions à l'engorgement des urgences semblent avoir été trouvées à l'extérieur des hôpitaux. D'abord, au Bas-Saint-Laurent, un nombre record de personnes ont accès à un médecin de famille. Le taux d'inscrits au Bas-Saint-Laurent est de 84%, précise le docteur Éric Lavoie du département de médecine générale du Bas-Saint-Laurent. Contraste frappant avec la moyenne provinciale qui est de 72% et encore plus avec l'île de Montréal où seulement 59% des gens ont un médecin. Autre force du système de santé dans la région, les soins à domicile. On va toujours choisir le domicile dans la mesure du possible, explique Steve Gray, qui est un infirmier spécialisé en soins à domicile. Maintenir les gens à domicile coûte moins cher et c'est le souhait de la majorité des malades. C'est le souhait, par exemple, de Carole Saint-Laurent, une de ses patientes qui souffre de dystrophie musculaire et qui affirme que le fait de recevoir des soins à domicile de qualité lui permet d'éviter l'hôpital. Le Bas-Saint-Laurent investit 207 $ par citoyen en soins à domicile. C'est le troisième montant le plus élevé au Québec après la Gaspésie et la Mauricie. CETAL ouvre une nouvelle usine à Victoriaville. CETAL est fier d'annoncer l'ouverture de son usine de Victoriaville, peut-on lire dans Actualité. À partir d'aujourd'hui, que dis-je. C'est une ouverture officielle qui permettra la création de 20 nouveaux emplois pour des personnes vivantes avec une limitation dans la région des Bois-Francs. L'usine de 3500 pieds carrés, c'est une première dans cette région, est située dans le parc industriel Paul-André Poirier. Les employés travailleront dans le secteur de l'assemblage des harnais électriques. La croissance de ce secteur permet de croire que CETAL développera une vingtaine d'emplois supplémentaires dans les prochaines années. Je voudrais maintenant m'entretenir, et je sais qu'il est déjà en ligne, avec Maxime Gagnon, directeur général adjoint de chez Altergo. Bonjour Maxime.
Bonjour, bon avant-midi.
Merci. Et vous-même, écoutez monsieur, vous êtes donc directeur adjoint, je viens de le dire, d'Altergo. Par hasard, imaginons qu'il y ait des gens qui ne vous connaissent pas encore très bien. Voulez-vous nous rappeler rapidement ce qu'est Altergo, s'il vous plaît?
Alors, Altergo est un organisme qui soutient l'inclusion sociale des personnes ayant une limitation fonctionnelle par l'abolition des obstacles aux loisirs, au sport et à la culture sur l'île de Montréal.
Bon, ben comme ça, c'est clair. Alors, Altergo, puis en plus, c'est facile à retenir. Quels sont les programmes que vous offrez?
Les différents programmes que nous offrons sont, entre autres, la promotion de l'accessibilité universelle, entre autres. Nous avons aussi différents programmes d'accompagnement. Nous avons aussi un programme de formation. Ah. Alors, formation pour les gens, soit qui veulent en savoir plus sur les personnes handicapées, que ce soit pour l'accessibilité, que ce soit pour la communication. Alors, ce sont différentes formations qu'on adapte à la clientèle à qui on doit desservir pour avoir un meilleur lien ou partenariat avec les personnes ayant une limitation fonctionnelle.
Et est-ce que vous donnez aussi de la formation à des personnes handicapées?
Nous ne donnons pas de formation aux personnes handicapées, mais c'est plutôt l'inverse.
On s'assure.
Nos formateurs ont tous une limitation fonctionnelle.
Ah, OK.
Oui.
Parfait. Dites-moi, qu'est-ce qu'il y a de neuf chez Altergo?
Altergo? Écoutez... c'est à chaque jour, c'est des nouveautés, c'est des challenges, des barrières qu'on doit abolir à chaque fois. Mais on est bien content du travail qu'on accomplit. C'est toujours de mettre l'image de la personne handicapée en valeur, de donner une image positive de celle-ci. Alors, c'est plutôt ça qu'on fait à chaque jour, si on veut.
Et vous trouvez qu'on est loin du résultat encore?
C'est quand même positif. On est loin du résultat, mais c'est quand même positif. De plus en plus, on parle d'accessibilité universelle. La place des personnes ayant une limitation fonctionnelle est présente. Je me rappelle, entre autres, tu vois, l'été dernier, on a fait les débats pour les terrasses accessibles, ainsi de suite. Oui. Donc, des nouveautés, encore plus de terrasses accessibles, tant mieux. Faire attention aux personnes non-voyantes qui passent dans la rue pour que ça ne soit pas encombré. Alors, ce sont des débats comme ça qu'on a, ou des petites victoires à chaque jour qu'on a.
Bien sûr. Est-ce que vous participez, vous, au débat, évidemment, comme le RAM sur le fameux virage à droite à Montréal?
Non, à moins qu'ils nous demanderaient de le faire, mais sinon, nous, souvent, c'est les organismes qui sont membres chez nous qui nous demandent la collaboration à ce moment-là. Mais nous, d'entrée de jeu, on ne s'implique pas dans ces choses-là.
OK. Non, je vous posais la question parce qu'il y avait, entre autres, actualité ce matin, le fait que le RAM allait s'impliquer là-dedans parce qu'il trouvait que c'était extrêmement dangereux pour les personnes non-voyantes et l'affaire du virage à droite. Pour ça que je vous posais la question.
Mon téléphone n'a pas sonné encore pour ça.
Maxime Gagnon, il faut quand même qu'on reparle de ce défi sportif Altergo. Ça a encore été fantastique en 2016.
Ben, c'est un événement qui va être à sa 34e édition cette année. Ça a débuté par une idée de Monique Lefebvre, qui est la fondatrice du défi sportif, qui un jour a décidé de faire un événement qui rassemblait toutes les personnes handicapées comparativement aux Jeux paralympiques ou les Olympiques spéciaux. Eux, c'est vraiment leur clientèle. La beauté et le fait qu'on soit unique au défi sportif, c'est qu'on regroupe tous les types de déficiences sous un même toit pour une compétition de 7 jours.
Oui. Dites donc, vous me parliez de Mme Lefebvre. Elle a reçu un prix au mois de décembre, là.
Oui.
Assez prestigieux.
Assez prestigieux. le CSM de mémoire, oui, c'est ça.
Oui, c'est ça.
Alors, elle est bien fière de ce prix et on est bien fiers pour elle aussi. Alors,
Aussi, on en a parlé sur Canal M.
Oui, on en a entendu parler. Puis c'est pas tous les jours qu'on connaît quelqu'un qui a reçu ce prix. Hey. Donc, de pouvoir la côtoyer à tous les jours, c'est un privilège.
Dites-moi, retour, parce que vous me parliez de Mme Lefebvre, alors soudain, j'ai voulu souligner ça, mais retour sur la 34e édition 2017, elle aura lieu quand exactement?
Exactement, elle aura lieu à partir du mois d'avril, le 24 avril, jusqu'au 30 avril.
24 alors, au 30,
oui. Les premières journées de compétition sont toujours des compétitions pour le réseau scolaire, les jeunes, le développement. Alors, ces athlètes-là, on espère, vont devenir nos porte-couleurs pour le Québec ou le Canada éventuellement.
Bien sûr. Et les inscriptions commencent quand?
Les inscriptions vont commencer à la mi-janvier environ.
D'accord.
Actuellement, c'est dans la semaine du 16 ou du 23 janvier que les inscriptions vont commencer.
D'accord. Et à ce moment-là, on va sur le site Altergo, j'imagine?
Oui, ou sur défisportif.com. Les deux sont facilement accessibles, altergo.ca ou défisportif.com. Vous allez avoir tous les détails à ce moment-là pour pouvoir inscrire soit votre école, soit votre équipe, soit un élève qui est seul dans une école. Souvent, c'est la problématique que nous avons, c'est de trouver ces athlètes-là qui sont intégrés dans des écoles régulières. Pour eux, tant mieux, c'est un plus, mais pour nous, d'aller chercher cet athlète-là qui, malheureusement, va servir de gardien de but ou va aller à la bibliothèque durant son cours d'éducation physique, nous, la beauté de la chose, c'est qu'on essaie de dire « faites-nous signe, on va aider ce jeune-là à le mettre en avant de son école. » Donc, si c'est une personne qui utilise un fauteuil roulant dans une école régulière, ben, d'amener des fauteuils de basketball puis de tous les faire jouer au basket pendant un cours ou deux, ce jeune-là, au lieu d'être toujours le gardien de but ou de compter des points ou d'aller à la bibliothèque, va être un modèle pour tous ses collègues parce que ça va être le meilleur au basketball. Alors, c'est un peu ça le défi sportif aussi.
Oui, comme j'ai mon jeune Jean-Sébastien ici en régie qui me fait signe chapeau. Alors, on vous remercie beaucoup, Maxime Gagnon, directeur général adjoint chez Altergo. Continuez votre excellent travail et on se donne rendez-vous pour un prochain entretien téléphonique un de ces jours.
Ça me fera toujours plaisir. Merci de m'avoir reçu aujourd'hui.
Mais je vous en prie, M. Gagnon. Bonne journée.
Merci, au revoir.
Par actualité nationale, difficile de se faire soigner pour les Canadiens selon un documentaire. Un réalisateur de Mont-Saint-Hilaire soutient que le protocole canadien pour traiter la maladie de Lyme, que certains appellent de Lyme, permettez de dire de Lyme si ça ne vous dérange pas, donc ce protocole serait inadéquat. C'est la conclusion du documentaire, qui s'appelle d'ailleurs Lyme, quand la maladie nous mord, qui sera diffusé à Canal Vie, dans lequel le cinéaste suit l'histoire de 4 personnes atteintes de la maladie qui ont dû se battre pour être soigné. La Montérégie est l'une des régions les plus touchées par la présence de tiques porteuses de cette maladie. Charles Domingue a travaillé pendant un an à ce documentaire. Le réalisateur y présente les histoires touchantes de Sabrina, Rachel, David et Marc. Certains, comme David, un agriculteur vivant avec la maladie depuis 17 ans, ont frôlé la mort. D'autres, comme Sabrina et Rachel, ont reçu de nombreux faux diagnostics. Rachel, d'ailleurs, croyait vivre avec la sclérose en plaques depuis de nombreuses années lorsqu'elle a reçu le diagnostic. Celle qui pensait au suicide et se déplaçait avec une canne a aujourd'hui recommencé à vivre. Et Marc a pour sa part dû insister pour passer un test sanguin. 4 personnes avec des profils fort différents, mais qui ont toutes dû faire face à une résistance du côté médical, selon leur témoignage. Une histoire qui n'a malheureusement rien d'exceptionnel, a constaté le réalisateur dans le cadre d'une conférence sur la maladie de Lyme à Ottawa. « Quand je suis allée à la conférence, j'avais mes 4 sujets, mais là, tu vois 1000 personnes de Terre-Neuve jusqu'à Vancouver, qui ont toutes la même histoire. Quand le médecin leur a dit que c'est dans leur tête, ils vont en voir d'autres, des collections de spécialistes qui leur disent qu'ils ne trouvent rien, que les tests sont négatifs. Maintenant, la maladie de Lyme est reconnue, mais si tu l'attrapes, bonne chance pour te faire soigner », de dire ce réalisateur Charles Domingue, dont le documentaire « Lyme, quand la maladie nous mord » sera diffusé sur les ondes de Canal Vie le 21 décembre à 20h. D'autres diffusions sont aussi prévues les 24, 25, 26 et 27 décembre. Rio doit beaucoup d'argent au Comité international paralympique. Le Comité international paralympique, le CIP, réclame plus de 4 millions de dollars canadiens aux organisateurs des Jeux de Rio. C'est ce qu'a révélé la BBC mardi. Le CIP a demandé au maire de la ville, Eduardo Paes, de l'aider à recouvrer cette somme. Le porte-parole, Craig Pence, a indiqué à la Société d'État britannique que le CIP était extrêmement déçu que les organisateurs n'aient pas honoré le dernier versement prévu pour les frais de transport de certaines délégations après avoir tardé à respecter la première échéance. Le CIP a versé 4,1 millions de dollars aux délégations de petits pays pour couvrir des prêts souscrits pour leur permettre de participer aux Jeux paralympiques dans les meilleures conditions. Selon le CIP, les organisateurs auraient dû payer leurs dettes à la fin du mois de novembre au plus tard. Ces derniers comptent maintenant sur l'intervention d'Eduardo Page, car leurs comptes ont été gelés. Le montant destiné aux Jeux paralympiques a été utilisé pour régler des problèmes de dernière minute liés aux Jeux olympiques. Ça, c'est peut-être pour la plus ancienne génération, le décès de la flamboyante actrice Zsa Gabor. L'actrice américaine Zsa Gabor, dont le style flamboyant a souvent fait les manchettes des journaux à potins, est morte dimanche à son domicile de Bel Air en Californie à l'âge, quand même exceptionnel, de 99 ans, a annoncé son agent. Née Zari Gabor en février 1917 à Budapest, dans une famille de la bourgeoisie hongroise, exilée aux États-Unis avant la Deuxième Guerre mondiale, Zsa Gabor, qui a cultivé son accent hongrois tout au long de sa vie, était peut-être plus connue pour ses 9 mariages et sa façon d'interpeller tout le monde d'un sonore « darling » que pour ses prestations à l'écran. « Je suis une merveilleuse maîtresse de maison », disait-elle. « Chaque fois que je quitte un homme, je garde la maison ». Souffrant de paralysie à la suite d'un accident de la circulation en 2002 et d'un accident vasculaire cérébral en 2005, elle ne se déplaçait plus qu'en fauteuil roulant. Elle avait été amputée d'une grande partie de sa jambe droite en janvier 2011 à cause de la gangrène. Son nom était devenu synonyme de frivolité. Elle ne semblait se préoccuper que des hommes et du lourd fardeau des gens riches et célèbres. Une des clés de son succès était de ne pas se prendre au sérieux. L'organisateur du programme de soccer adapté pour les jeunes atteints d'un trouble du spectre de l'autisme, le TSA, de l'Arsenal de Chambly, Frédéric Boisvert, est extrêmement satisfait de la première année du programme dans la région. « Personnellement, ça a été très bénéfique », explique M. Boisvert. « J'ai passé tout un été et tout un automne. C'est un projet de vie pour moi. » M. Boisvert a pu constater une amélioration constante et rapide des jeunes joueurs de soccer. Pardon. C'est incroyable de voir à quel point ils s'améliorent au plan technique, affirme-t-il. Travailler avec des jeunes atteints d'un TSA demande beaucoup de ressources. Le plus grand défi qu'on a, c'est de confronter leur peur de l'échec. Mais le docteur Laurent Motron, du laboratoire de neurosciences de l'Université de Montréal, une sommité dans la recherche pour l'autisme, m'a rassuré. Selon lui, la seule manière de surmonter cette peur, c'est de la vivre. La Fédération de soccer du Québec, la FSQ, analyse le programme de soccer adapté afin de l'étendre à toute la province. Et puis, le défenseur de l'impact Laurent Simon et l'agence NTL Sport invitent la communauté de soccer du Grand Montréal à donner des articles de soccer comme des souliers à crampons pour soutenir les Haïtiens dont les résidences ont été dévastées par l'ouragan Matthew. Frédéric Boisvert désire que les gens de la région soient généreux afin de pouvoir aider les jeunes Haïtiens à pratiquer le soccer dans de meilleures conditions. Voilà ce qui met un terme au Paractualité du jour en ce 19 décembre. Merci à toute mon équipe, c'était Clotilde Sey qui vous souhaite une bonne journée, qui vous dit à demain 11h30.